Je passe la parole à l'instant à Michael Fessel, professeur de philosophie à l'École Polytechnique, co-directeur de la collection L'Ordre philosophique aux éditions du Seuil, et dont le dernier ouvrage paru s'intitule Le temps de la consolation.
Merci. Ça marche. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Patrick Boucheron de m'avoir invité, d'autant plus que je n'ai qu'assez peu de titres à être là pour parler de ce sujet, n'étant ni historien, ni épistémologue de l'histoire, ni même foucaldien. Mais ces incompétences un peu rhétoriquement rappelées, je voudrais dire ce qui m'a intéressé d'abord dans le thème qui nous réunit et qui est résumé dans le texte de présentation du séminaire, à savoir le lien qui est affirmé dans ce texte et qui a été d'ailleurs réaffirmé par Mathieu Pot-Bonneville dans son introduction entre la question de la périodisation historique et la question de la légitimation. Et autant je suis, alors là pour le coup, peu compétent sur la question de la périodisation, autant la question de la légitimation historique, et particulièrement de la légitimation historique de la notion même de temps moderne, m'a occupé par des voies, disons, diverses. Et je voudrais commencer en rapprochant deux citations d'auteurs qui ne se sont ni connus, ni à ma connaissance du moins lus, mais qui insiste bien sur le fait, ou qui indique bien ces deux citations, que la question ou l'équivalent, sinon même la synonymie, entre périodiser une époque et puis légitimer par la même cette époque, cette question ne se pose d'abord et essentiellement que pour les temps modernes en un sens large ou les Lumières. La première citation est de Foucault, du texte, ou l'une des versions du texte, des textes sur Qu'est-ce que les Lumières, je cite, « Est-ce qu'après tout, l'Aufklärung, ce n'est pas la première époque qui se nomme elle-même et qui, au lieu simplement de se caractériser, selon une vieille habitude, comme une période de décadence ou de prospérité, se nomme à travers un certain événement qui relève d'une histoire de la pensée, de la raison et du savoir, et à l'intérieur de laquelle elle a elle-même joué son rôle ?» Je retiendrai de cette assez longue citation simplement la question rhétorique de Foucault, est-ce qu'après tout l'Aufklärung n'est pas la première époque qui se nomme elle-même ? Et cette citation, je voudrais la rapprocher d'un auteur que dont je vais parler plus longuement, qui est Hans Blumenberg, et qui dans un livre intitulé, traduit en français, pas très bien traduit, mais traduit, « La légitimité des temps modernes », écrit, la citation est plus courte, « Seule, et plus péremptoire peut-être, seule l'époque moderne s'est comprise comme époque et a créé par la même les autres époques. » Seule l'époque moderne s'est comprise comme époque et a créé par la même les autres époques. Et cette formulation de Blumenberg me paraît parfaitement résumer la problématique, l'association peut-être étrange, entre périodisation et légitimation, c'est-à-dire que les temps modernes sont ici caractérisés par leur autoréférentialité historique, par leur capacité à se déclarer elles-mêmes époque, à faire époque, et rétroactivement donc à s'octroyer aussi le droit, peut-être de manière évidemment tout à fait illégitime, de nommer, juger, évaluer les autres époques qui ne prennent ce titre qu'à partir d'elles. Par là, je crois, Blumenberg et, en un sens, Foucault, ne font qu'énoncer le projet des temps modernes qui est de réaliser une rupture radicale avec la tradition, certes, mais en ajoutant la prétention à nommer ce avec quoi l'on rompt, à lui donner même le sens que le passé n'était pas capable de se donner à lui-même. Ce qui importe, je le dis tout de suite dans ma perspective, comme du reste dans celle de Blumenberg, c'est moins la réalisation effective de ce projet, sommes-nous modernes, avons-nous raison de l'être, faut-il le rester, c'est moins la réalisation effective de ce projet que l'ambition de nouveauté qui joue un rôle capital dans la manière dont les thèmes de la modernité, me semble-t-il, doivent être interprétés. Hans Blumenberg, c'est un philosophe qui, et ça le distingue là de Foucault, procède à ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie de l'histoire des concepts ou de l'histoire des significations. Cela veut dire en l'espèce qu'il veut comprendre la modernité, les concepts modernes, les thèmes modernes, mais en les replaçant dans le concept, leur apparaître en quelque sorte, et leur apparaître ici est historique, avec cette idée fondamentale, et on va le voir sur un exemple, que le sens même, pour saisir le sens d'un concept ou de son historicité, eh bien, il faut le replacer dans le lieu, je dirais, théorique où il apparaît, et que le replaçant dans le lieu théorique où il apparaît, dans le contexte théorique où il apparaît, dans son apparaître propre, donc, qui est historique, eh bien, en même temps, on peut en limiter le sens, en faire une critique d'une certaine manière, c'est-à-dire le comprendre autrement que comme un concept hors sol, en quelque sorte, ce qui est le meilleur moyen, évidemment, de le dogmatiser. Si je fais ce préalable méthodologique, c'est que le concept, le thème, le mot d'ordre, pourrait-on dire, que je vais étudier, c'est, ou évoquer ici, c'est celui du progrès, et avec lui, évidemment, de la philosophie de l'histoire, avec lesquels, progrès et philosophie de l'histoire, on nous invite aujourd'hui, peut-être plus encore qu'hier, à rompre au nom précisément de ce que Patrick Boucheron a appelé une généalogie trop glorieuse de la modernité. Et je voudrais essayer de suivre un peu Blumenberg et d'apporter quelques autres hypothèses pour essayer de voir dans quelle mesure, effectivement, ce concept de progrès, si on l'envisage depuis le lieu de son apparaître historique, eh bien, est-il véritablement celui d'une une sorte de prétention historique des temps modernes de laquelle nous devrions impérativement aujourd'hui rompre. S'il y a un point, je ne sais pas dans quelle mesure la pensée de Blumenberg est connue ou pas, mais s'il y a un point qui est relativement connu du travail de Blumenberg, connu en France, je veux dire, c'est, et ça rejoint aussi notre thème, c'est la critique qu'il a faite dans ce livre qui s'appelle significativement d'ailleurs « La légitimité des temps modernes », la critique qu'il a faite du théorème, pardon, ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs, le théorème de la sécularisation. C'est-à-dire la thèse courante, couramment admise, un peu moins depuis lui, mais enfin tout de même, parfois on en voit des retours, selon laquelle les temps modernes et les concepts modernes et les institutions modernes, c'est aussi une thèse qui a été défendue en philosophie politique par Carl Schmitt, ne seraient que des concepts religieux, chrétiens, médiévistes, sécularisés. Évidemment, dans cette thèse cette hypothèse sur la modernité, il y a in coda venenum, si j'ose dire, la prétention, le désir de refuser aux temps modernes ceux qu'ils revendiquent pour eux-mêmes, c'est-à-dire leur nouveauté. Hein, en allemand, je crois que Mathieu l'a rappelé, c'est Neuzeit qui désigne, la formule Neuzeit qui désigne le terme temps moderne. Si les temps modernes ne sont que la sécularisation, la mondanisation, l'application au monde de concepts, de schèmes, d'institutions, d'espérances, et évidemment cela vaut fondamentalement pour le thème du progrès, cela, qui sont, ou dont les racines sont religieuses, alors les temps modernes ne seraient pas une rupture précisément, mais ne seraient que la version mondanisée et par conséquent en quelque sorte appauvrie de ce point de vue, d'une dogmatique ou d'une croyance ou d'une conceptualité même qui aurait son lieu originaire dans l'Antiquité ou généralement d'ailleurs dans le christianisme. Évidemment, c'est à propos de ce thème du progrès que ce théorème de la sécularisation est le plus évidemment, je dirais, utilisé, le plus spontanément utilisé, puisqu'on a tout à fait pu comprendre qu'il y a dans la ponctualité de l'annonce progressiste, c'est-à-dire nous vivons désormais sous le signe de l'avenir, si l'on veut bien la définir ainsi, nous modernes vivons désormais sous le signe de l'avenir, on peut tout à fait y lire une transposition à l'histoire de l'humanité, des catégories religieuses, de la création, qui désignerait le passé, de la révélation, qui désigne le présent historique, et de la rédemption, qui désigne l'avenir. Et non seulement on peut le faire, mais on l'a fait, de Hegel à Karl Levitt, en passant par Schelling et, dans une certaine mesure, par Nietzsche. Donc, je l'ai dit, cette lecture vise le plus souvent, il faudrait nuancer, ce n'est pas le cas vraiment de Hegel, mais enfin, le plus souvent, à délégitimer les temps modernes, au moins sur un point qui est le caractère, disons, autofondé qu'ils prétendent donner à leur discours. Alors, il ne s'agira pas du tout, et je m'arrête dans cette introduction pour moi, de justifier ce caractère autofondé, mais d'essayer, à la suite d'ailleurs de Blumenberg, de voir s'il n'est pas nécessaire pour comprendre cette rupture moderne, pour autant qu'on accepte de conserver le terme, s'il n'est pas nécessaire pour la comprendre, pour l'analyser d'un point de vue, je dirais, historique ou historico ou de philosophie de l'histoire, d'ailleurs, d'histoire de la philosophie, pardon, n'est pas nécessaire d'en tenir compte dans la manière dont nous analysons les concepts, en particulier ici de progrès, que la modernité a mis en avant. Non pas pour, à la fin, je dirais, des fins normativement acceptées ou pas, que la raison, ou admettre ou pas, ou défendre l'idée selon laquelle la raison dans la modernité s'est affirmée à partir d'elle seule, bien sûr, cela ne me paraît pas être une question philosophiquement absolument pertinente, mais si le sens même de ces concepts, y compris ceux que nous pouvons en faire encore aujourd'hui, n'était pas déterminé par la prétention à l'auto-affirmation, ce qui est autre chose évidemment que l'idée que l'auto-habilitation est réussie. Et je voudrais le faire sur l'idée de progrès, parce que précisément il me semble que cette idée-là, nous pouvons montrer relativement facilement, enfin, j'espère le montrer relativement facilement, et surtout dans le temps imparti qui a déjà passé, que, enfin il n'est pas encore passé, mais il a déjà passé, que cette idée a été introduite, y compris d'ailleurs par celui qui pour le coup est encore un point commun entre Blumenberg et Foucault, c'est-à-dire par Kant, sur un mode beaucoup plus modeste, beaucoup plus limitatif, je dirais, que sur le mode glorieux auquel on l'assigne d'habitude. En effet, Kant, et je me contenterai de cette citation, écrit dans le texte qui s'appelle « L'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique », au moment où il envisage l'hypothèse qu'il pourrait y avoir quelque chose comme une adéquation entre le temps de l'histoire de l'espèce humaine, d'ailleurs, de l'espèce naturelle humaine, et la raison, il pourrait y avoir une adéquation progressive. Et il dit à cet égard qu'il faudrait chercher, je cite, un fil conducteur, donc, qui ne sera pas seulement utile à l'explication du jeu confus des affaires humaines ou à la prophétie politique des transformations futures, mais ouvrira une perspective consolante sur l'avenir, où l'espèce humaine est représentée dans une ère très lointaine, comme travaillant cependant à s'élever à un état où tous les germes que la nature a placés en elle pourront être complètement développés et sa destination ici-bas pleinement accomplie. De ce texte très dense, je ne retiens qu'un seul aspect, pour l'instant du moins, c'est que le progrès, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est présenté comme un fil conducteur, un principe heuristique, une manière donc d'envisager le temps, dont la justification n'est pas scientifique, du moins dans ce cadre, mais apparemment, on pourrait presque dire psychologique, c'est-à-dire que c'est pour nous consoler que l'idée d'une adéquation possible, tendancielle, asymptotique du reste, entre la raison, la liberté d'un côté et le temps de l'autre, doit être privilégiée. Alors évidemment, on pourrait dire, tout cela c'est lié à Kant, le point de vue de la finitude, le fait qu'il associe à la philosophie de l'histoire et à la modernité elle-même, pardon, à la rupture moderne, un sens relativement modeste du fait que, pour lui, l'histoire n'est que le progrès du droit, pas de la morale, par exemple. Bon. Mais je vais essayer d'indiquer tout de suite en quoi, en réalité, il y a une nécessité, dans la présentation, disons, sinon psychologisante, du moins relativement humble, du progrès dans la modernité, tout simplement parce que la consolation, bon, j'ai essayé de le montrer par d'autres voies, il n'y a pas de consolation sans désolation. Il n'y a pas de consolation sans perte, et par conséquent, le fait même de parler du progrès comme d'une perspective consolante pour l'avenir nous force à nous poser la question de savoir de quelle perte la modernité est-elle, avant d'être auto-affirmative, de quelle perte est-elle le témoin, l'acteur, et peut-être aussi d'ailleurs la victime. Et c'est sur ce sur quoi je conclurai, si ce qui est de plus en plus improbable, j'ai le temps d'arriver au bout. Alors, je vais gagner quand même du temps par rapport à ce que j'avais prévu de dire, parce que je voulais dans un premier temps, donc après cette trop longue introduction, revenir sur ce théorème de la sécularisation qui évidemment pose la question de la périodisation, légitimation, en ce sens que je l'ai suggéré déjà, c'est pour ça que je ne fais que le rappeler. Au fond, ne pas accepter la périodisation que la modernité donne d'elle-même, par exemple dans le fameux texte de Kant sur « Qu'est-ce que les Lumières ?», mais déjà dans le discours de la méthode de Descartes, ne pas accepter cette périodisation, c'est une manière de poser la continuité, et par conséquent donc aussi la dépendance entre le nouveau et l'ancien, contre la prétention de la légitimité des temps modernes, pardon, à faire nouveauté, à introduire de la nouveauté, à faire même rupture. Je suis ici, Blumenberg, dans un aspect de sa critique, justement, à propos du progrès, de sa critique de ce théorème de la sécularisation. Le chapitre de la légitimité des temps modernes où Blumenberg traite de la question du progrès s'intitule « Le progrès se dévoilant comme fatalité ». Le progrès se dévoilant comme fatalité, c'est un chapitre, je vais vite, qui vise précisément Carl Levitt, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Histoire et salut », qui est significativement sous-titré « Les présupposés théologiques de la philosophie de l'histoire », et qui est donc, Levitt considère que c'est dans l'eschatologie chrétienne, dans la conception chrétienne du temps, disons linéaire du temps, et finalisée, téléologiquement orientée, c'est dans l'eschatologie chrétienne donc, que se trouverait la source véritable des théories modernes de l'histoire, et il remonte ainsi de manière tout à fait significative de Hegel, Burckhardt, je crois, Hegel, et puis il va jusqu'à Saint-Paul. Bon. Alors, en quoi est-ce que l'argument, ou quel est l'argument de Blumenberg pour réfuter cette manière, au fond, de ramener la modernité à être l'expression qui y compris, enfin, si je puis dire, surtout d'ailleurs catastrophiste, parce qu'il est clair que dans l'esprit de Levitt, l'eschatologie sans Dieu, qu'est le progrès, l'eschatologie sans transcendance, que serait le progrès historique, ne peut être que catastrophique, totalitaire, bon. Quel est l'argument de Blumenberg? On peut le dire en un mot. Blumenberg, mais c'est intéressant pour notre propos, je crois, rappelle qu'il est impossible de traduire les schèmes eschatologiques juifs ou chrétiens, du reste, dans les termes du progrès intramondain. Pour le dire autrement, l'eschatologie juive ou chrétienne est fondamentalement, se caractérise pardon, fondamentalement par son hostilité au monde, et par conséquent, on ne peut pas la séculariser, sauf à nier sa propre essence. Je cite Blumenberg, simplement pour que l'idée soit précisément rappelée, puisque c'est lui qui le fait. « Lorsqu'il s'est agi de mettre au jour l'idée de progrès, écrit Blumenberg, l'eschatologie fut plutôt un symptôme de crainte et d'effroi que d'espérance. Au sens strict, il est impossible de mondaniser l'eschatologie, car celle-ci réunit des attitudes hostiles au monde et déplace le lieu de l'espérance hors de toute expérience séculière. » Autrement dit, je crois que c'est un point fort de cette analyse, la philosophie de l'histoire ne peut donc s'inspirer d'une attitude qui ruine sa prémisse, parce que la prémisse de la philosophie de l'histoire, c'est qu'il y a une croyance, ou c'est que l'on peut déployer légitimement une croyance dans les puissances normatives du monde. Alors, s'il y a une sécularisation, dit Blumenberg, c'est-à-dire au sens de transfert de signification d'un espace théologique à un espace qui le serait moins, Blumenberg explique très bien, enfin je trouve de manière convaincante, qu'elle a lieu en fait dans le passage, elle a lieu bien avant la modernité, dans le passage de l'eschatologie à la doctrine de la providence divine, en particulier via le stoïcisme, etc. Et qu'effectivement, cette doctrine de la providence divine, qui elle présuppose une réhabilitation de la création, via la présence de Dieu même à sa créature, cette théorie de la providence entretient, elle, des liens avec la philosophie de l'histoire. Ce qu'il y a de fondamentalement incompatible entre l'eschatologie chrétienne ou enfin, monothéiste et l'idée de progrès, et c'est ça le point auquel je voulais en venir, c'est que l'idée de progrès repose, avant de reposer sur une valorisation de l'avenir ou sur une condamnation du passé, elle repose sur une prise en compte là, de ce que Foucault appellerait justement l'actualité. Je lis Blumenberg qui donne cette définition qui me paraît être l'une des plus suggestives, parce que les moins attendues peut-être, je le cite, « L'idée de progrès est l'auto-justification permanente du présent par l'avenir qu'il se donne face au passé auquel il se compare. » Autrement dit, il y a dans l'idée même de progrès une valorisation de l'actuel, du présent, qui ne doit pas, je dirais, être totalement effacée au profit des deux dimensions que l'on retient, pour le lui reprocher d'ailleurs, au progressisme, c'est-à-dire la condamnation univoque du passé parce qu'il ne serait toujours un pas encore, en quelque sorte, et puis surtout la valorisation naïve, si ce n'est d'ailleurs totalitaire, d'un avenir qui serait un accomplissement. Dans le progrès, il y a d'abord une manière, précisément dans l'affirmation d'un progrès, sur lequel d'ailleurs je ne donne pas plus je ne caractérise pas plus que cela, progrès de la liberté, progrès de l'égalité, ici ce n'est pas tellement mon point, mais dans l'idée que le temps se caractérise par l'indétermination de l'avenir, beaucoup plus d'ailleurs que par le fait qu'il est d'ores et déjà écrit, il y a de manière nécessaire, je dirais, une valorisation présent. Valorisation du présent que l'on pourrait d'ailleurs aussi retrouver chez Kant, lorsque Kant, justement, et c'est ce qui a prêté le flanc d'ailleurs à l'idée qu'il ne serait lui-même que l'un des témoins de ce théorème de la, ou l'un des acteurs, pardon, de ce théorème de la sécularisation, Lorsque Kant dit, croyez-moi sur mémoire, parce que je ne vais pas retrouver la citation maintenant, croyez-moi sur parole, pardon, et sur mémoire aussi, de fait, dans le conflit des facultés, non pas, dans, oui, peu importe, dans le conflit des facultés, il se pourrait que la philosophie elle-même ait son millénarisme. Il se pourrait que la philosophie elle-même ait besoin de ces représentations eschatologiques pour se donner à elle-même, en quelque sorte, texte qui a d'ailleurs aussi beaucoup intéressé le conflit des facultés, texte qui a beaucoup intéressé Foucault, pour se donner à elle-même une représentation de l'histoire qui soit déterminée par sa fin. Bon. Mais ce qui est très intéressant et révélateur dans le texte de Kant, dont je viens de retrouver maintenant la formulation, c'est qu'il ajoute immédiatement, mais ce qui est une question qui peut-être d'ailleurs laisserait à l'historien rêveur, mais comment une histoire a priori serait-elle possible? Comment une histoire a priori serait-elle possible? C'est-à-dire comment peut-on faire de l'histoire sans, au fond, rencontrer, ni attendre peut-être d'ailleurs, ça c'est toute la perspective aujourd'hui très en vogue de l'Uchronie, sans attendre que les faits n'adviennent. Et il réponse, enfin c'est Kant qui écrit réponse, deux points, lorsque le devin fait lui-même et organise les événements qu'il prédit. Autrement dit, il y a un millénarisme philosophique possible, en effet, mais à la condition expresse, et propre au temps moderne, pour le coup, que nous acceptions la prémisse selon laquelle c'est nous qui faisons l'histoire, y compris le devin, et que par conséquent, nous ne savons de l'histoire que ce que nous y mettons nous-mêmes. C'est cela que dit Kant, au fond, hein, lorsqu'il envisage cette hypothèse tout à fait audacieuse d'une histoire a priori. Et de ce point de vue-là, évidemment, on ne peut pas parler d'une simple sécularisation de la, d'une conception, je dirais, qui emprunterait tout à la puissance de Dieu. Bon. Alors, évidemment, on n'a fait que la moitié du chemin lorsque l'on a remis en cause les perspectives, disons, continuistes, qui veulent ramener les temps modernes à une grammaire que non seulement il ne présenterait pas de manière explicite, puisque ce serait une grammaire religieuse, mais à laquelle il s'opposerait de manière tout à fait aveugle. On n'a fait que la moitié du chemin, parce qu'il faut alors essayer de comprendre quel est l'émergent, quelles sont les conditions réelles, enfin justes, vraies, appropriées, je dirais, de l'émergence d'une idée comme celle du progrès au cœur des philosophies modernes de l'histoire. Et cela, je crois qu'on peut encore, pour une part, mais après je prendrai un peu de distance, suivre Blumenberg sur ce point, lorsqu'il remarque que le constat selon lequel il y aurait des progrès dans l'expérience, des progrès dans l'invention technique, des progrès dans la réalisation artistique, et puis des progrès dans la vie individuelle, ce constat n'est pas du tout propre au temps moderne comme tel. Ce qui, en revanche, ce qu'il faudrait expliquer, c'est l'universalisation de ces progrès partiels dans une idée de progrès valant pour l'histoire comme un tout et pour l'humanité comme un sujet. Et pour expliquer cette universalisation, tout à fait caractéristique, effectivement, d'un certain nombre des théories des Lumières ou de la modernité déjà avant elles, d'ailleurs, mais singulièrement des Lumières, Blumenberg va mobiliser une théorie qui me paraît être justement, du point de vue de l'épistémologie, de la périodisation, l'une des plus puissantes, qu'il va nommer le processus du réinvestissement, Umbesetzung en allemand. Selon lui, j'en dis quelques mots, selon lui, les temps modernes ont été confrontés à une question sur la finalité du tout de l'histoire, qui avait été thématisée au Moyen-Âge, mais à laquelle ils ont dû répondre en sollicitant des moyens disponibles dans la période post-médiévale. Rapidement. C'est-à-dire que la réponse traditionnelle à la question « quel est le tout de l'histoire ?», la réponse traditionnelle en termes d'histoire du salut, justement, entre création et jugement, cette réponse est devenue vacante, ou plutôt la place occupée par cette réponse est devenue vacante, mais la question, en revanche, sur le sens total de l'histoire, elle, a subsisté. Et l'hypothèse de Blumenberg, c'est précisément que l'idée de progrès universel a réinvesti, c'est ça le réinvestissement, la place laissée vacante par l'éloignement de Dieu, pour le dire vraiment très vite, et que donc, s'il y a une permanence relative des grandes questions, néanmoins, évidemment, les grandes réponses, il y a une variation infinie des réponses, ce qui montre qu'au fond, à la fin des fins, et ça rapprocherait sans doute aussi sur ce point Blumenberg de Foucault, Blumenberg a une conception fondamentalement non substantialiste de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des schèmes explicatifs fondamentaux, on pourrait dire des a priori qui ne soient pas des a priori historiques. Qui dit réinvestissement réinvestissement de Chem épuisé en quelque sorte hein, via la crise nominaliste, Bloomberg explique cela beaucoup, enfin très précisément dans la légitimité des temps modernes, l'épuisement de la solution au fond, la réponse fondamentale au sens de l'histoire par la théorie du salut, c'est la crise nominaliste qui le réalise. Bon. Qui dit réinvestissement, pardon, dit aussi modification. Et l'erreur de ceux qui pensent que le progrès n'est que la sécularisation de l'eschatologie ou même de la providence, c'est de laisser tomber ce qu'il y a justement de modifié au terme de ce réinvestissement et qui est justement l'essentiel. L'idée de progrès, montre Blumenberg, est donc arrachée à son contexte initial qui désignait des segments limités de l'expérience humaine, et par le réinvestissement, au fond, elle devient une idée métaphorique par laquelle le progrès assume l'agrégat de sens porté jusqu'ici par l'histoire du salut. Autrement dit, le progrès historique, avant d'être une thèse ontologique sur l'histoire de l'humanité, c'est un concept, on pourrait dire heuristique, mais je dirais presque que c'est un moyen de détresse qui permet d'explorer l'avenir sur les ruines des réponses apportées dans la période qui précède. Il faut que je m'arrête quand ? 5 minutes, d'accord. Alors, c'est là évidemment qu'on va peut-être retrouver et comprendre mieux la phrase étonnante peut-être de Kant selon laquelle le progrès est une catégorie consolante. Il n'y a de consolation, je l'ai indiqué tout à l'heure, que s'il y a d'abord l'expérience vive, je dirais, d'une désolation. Et cette désolation, c'est précisément, je crois, celle, en tout cas c'est à cela que Kant pense, celle qui a accompagné l'effondrement des théologies du salut au cours de la crise nominaliste et disons des débuts de la modernité. Ce qui montre que le progrès est en quelque sorte, et au sens quasiment que donnait Derrida à ce terme, ce qui est une consolation du reste, un supplément. Un supplément, c'est-à-dire quelque chose qui supplée à ce qui a manqué, qui désormais manque, c'est-à-dire des certitudes relatives à la totalité mondaine, au temps comme totalité, mais un supplément qui, non seulement supplée, vient à la place d'eux, mais apporte quelque chose de nouveau. Apporte quelque chose de nouveau, en l'occurrence, évidemment, là je ne suis pas très original, la possibilité même que cette histoire qui se faisait sans nous et pour nous, dans le schéma théologique, disons, puisse se faire parfois contre nous, mais du moins avec nous. Autrement dit, s'il y a consolation ici, comme il y a consolation en général, c'est précisément parce que le philosophe de l'histoire apporte un récit. Qu'apporte-t-il un récit ? Il apporte un récit à la place de ce qui ne peut plus être considéré comme une certitude, c'est-à-dire le dernier mot de l'histoire. Et dans cette logique du supplément, il y a à la fois la déception inhérente à ce qui n'est qu'un lieu tenant, ce qui tient lieu de la perte, et en même temps l'espérance d'une nouvelle manière d'investir le sens. Je voulais développer un peu ce point en montrant qu'il n'était peut-être pas si cocasse d'envisager cela comme une consolation, parce que le philosophe qui, très vite après Kant, relativement vite après Kant, voudra redonner à la philosophie de l'histoire le degré de certitude, le degré de consistance métaphysique qu'elle avait perdu au tournant moderne, à savoir Hegel, expliquera expressément que la philosophie, et singulièrement celle de l'histoire, ne doit pas être une consolation, mais une réconciliation, pardon. Je cite, parce que je ne peux pas m'empêcher de citer, la consolation, c'est Hegel, la consolation est une compensation factice d'un mal qui n'aurait pas dû se produire, son domaine est celui des choses finies. Aussi bien la philosophie n'est pas une consolation, elle est quelque chose de plus, elle réconcilie, elle transforme le réel qui apparaît injuste et l'élève jusqu'au rationnel en montrant qu'il est fondé sur l'idée elle-même. Je ne cite pas cette phrase pour le coup et pour de manière un peu pavlovienne pour distinguer le méchant Hegel qui prétendrait tout réduire au système du bon Kant qui en plus aurait ici le caractère consolant et quasiment sensible qu'on lui reconnaît bien peu souvent dans sa philosophie. mais simplement pour montrer que là se joue, dans ce concept peut-être un peu étonnant, se joue aussi une interprétation de la modernité fondamentale. Car parler de la philosophie de l'histoire, comme le fait Hegel, comme d'une réconciliation, implique évidemment de se demander avec quoi va-t-on se réconcilier ? De quoi la philosophie moderne, dans sa version hegelienne, prétend nous réconcilier ? Sinon de la perte, que nul mieux d'ailleurs que Hegel aura thématisée, de la perte dont les temps modernes sont à la fois, je dirais, les victimes et le résultat. La réconciliation de la Grèce et des Lumières, ou de la foi d'ailleurs et des Lumières, d'abord et avant toute chose, la réconciliation entre le point de vue de l'individu, qui est le point de vue justement que la modernité, je dis tout cela très rapidement, hein, que l'individu que, selon Hegel, la modernité a mis en avant, et la communauté, sous la figure de l'État, mais d'un État cette fois-ci qui accepterait le moment de la différence, qui serait donc l'État moderne et plus la cité grecque, bref. Toute l'entreprise philosophique hegelienne, je ne cite ici que les aspects, disons, plutôt historico-politiques, mais ça vaudrait d'un point de vue spéculatif, est fondée sur cette exigence de passer au-dessus, en quelque sorte, de la rupture moderne, non pas dans un esprit anti-moderne pour lui, mais dans un esprit, je dirais, d'accomplissement de la modernité, mais accomplissement de la modernité, voulant dire ici l'abandon de ce qui, dans la modernité, a fait rupture. Voilà. Par la récupération dialectique. Ce n'est pas un hasard, et je m'arrête, si Hegel a focalisé sa critique, non seulement de Kant, mais des philosophies de l'histoire, disons, consolantes, sur le thème du progrès à l'infini et du mauvais infini, qu'il a constamment considéré comme étant une sorte d'expression paradoxale, l'idée que le progrès irait à l'infini, dans le temps, bien évidemment. Idée qui nous semblerait peut-être à nous aujourd'hui, à l'heure justement de l'anthropocène, idée qui nous apparaîtrait à nous peut-être comme déjà d'une arrogance sans nom, mais qui restituait là aussi dans son contexte, et Hegel ne s'y est pas trompé, est en fait un vestige totalement finitiste de la pensée. Pourquoi ? Parce que parler de progrès à l'infini, ce n'est justement pas appliquer au progrès humain, donc à l'humanité elle-même, voire à la liberté elle-même, un attribut, l'infini, qui jusque-là était ou aurait été réservé à Dieu. Ça serait encore le théorème de la sécularisation. En fait, l'infini, c'est une expression de la déception, et pas de la prétention. Parler de progrès à l'infini, comme le fait Kant, et comme on le fera beaucoup après lui, même sans se référer à sa pensée, c'est rappeler tout de même que, enfin, ou plutôt cela suggère, que l'infini vient là aussi en lieu et place de ce qui ne pourra pas être vécu dans le temps même de la vie. C'est pour consoler les hommes du fait que, qu'il y aura une déception de chaque individu dans le contexte de sa propre histoire, dans le fait que le temps de sa vie ne coïncidera pas avec le temps du monde, avec le temps de l'espèce, que le progrès à l'infini est consolant dans la mesure, je dirais, où il rend l'histoire supportable, alors même que sa fin n'est plus certaine et qu'elle est même sans cesse déplacée. Je conclue cette fois-ci pour de bon. Quel est l'intérêt d'introduire ce thème de la consolation dans l'épaisseur de l'histoire collective et en particulier pour essayer d'éclairer des aspects d'épistémologie, disons, ou de philosophie de l'histoire au sens de l'épistémologie de ces catégories ? Eh bien, il me semble que cela permet de porter un regard nouveau, ou une lumière, j'espère, du moins une lumière nouvelle, sur une notion qui a été évoquée plusieurs fois aujourd'hui, c'est la notion de seuil historique. À quel moment, selon quelle procédure, selon quelle logique, selon quelle nécessité, pas selon quelle procédure, selon quelle nécessité, sommes-nous, pouvons-nous affirmer que nous avons franchi un seuil dans l'histoire elle-même ? Le seuil dont j'ai, avec Blumenberg, essayé de reconstituer le sous-texte, je dirais, est un seuil invisible. Il n'est pas vécu, personne ne vit, je dirais, l'effondrement de des possibilités ouvertes par, ou garanties plutôt par, la conceptualité médiévale. Bon. C'est un seuil invisible au sens où il ne se donne pas comme événement. Il ne se donne pas comme événement ni historique, ni peut-être même, ça serait une différence ici avec Foucault, comme événement de pensée. Un seuil, je dirais, c'est un temps, un seuil historique évidemment, c'est un temps où les positions de réponse léguées par la tradition deviennent obsolètes. Et ce temps n'est pas celui d'une révélation, il n'est pas celui d'une œuvre même, même s'il est évidemment à chaque fois accéléré, si je puis dire, par des œuvres qui sont des œuvres de rupture. Mais s'il est un seuil, s'il est non pas simplement une fin, mais la possibilité même d'un commencement, c'est que les questions elles-mêmes héritées du passé demeurent obstinément les nôtres. Et que par conséquent, ce que dit le concept de Blumenberg de réinvestissement, c'est qu'à l'origine de la rupture, à l'origine de la rupture historique, ici celle des temps modernes, peut-être celle qui tout de même reste la plus fondamentale, au fond même de la nouveauté et de l'exigence même de repartir de rien, de recommencer, comme le disait tout à l'heure Patrick Boucheron, il y a une expérience de la perte et jamais celle de la plénitude, de la certitude et de l'affirmation. Voilà, j'ai déjà trop parlé, donc je m'arrête.